Ça y est, tu enregistres là?
Bonjour, c'est l'heure du documentaire et nous signons ce dernier épisode estival par un documentaire voué à la faune sauvage de Paris. Il y a des noctambules qui voient des renards faire les poubelles. Et non, même s'ils sont ingurgités des substances dont nous ne connaissons pas la composition, ils n'ont pas la berlue. De très sérieux observateurs confirment leur témoignage. Qu'ils partent à l'aube, restent à la maison et depuis leur fenêtre guettent les oiseaux, ou traînent la nuit, ces témoins dignes de foi nous rapportent un bestiaire surprenant. Faucons cresserelles au bord du périphérique, ou fouines graciles cohabitent avec des chauves-souris. En raison du réchauffement climatique, oiseaux et papillons migrent de plus en plus au nord de l'Europe et changent la composition de la faune urbaine. Allons à la rencontre de ces animaux discrets ou plus imposants qui migrent vers Paris et pour la première fois y posent pattes ou griffes.
Ah, c'est la vie parisienne.
Tout ça, c'est des Parisiens.
Il y a des tas de choses à voir, à côté desquelles on passe. Et auxquels on ne fait pas attention.
Il y en a des petits, hein.
Il y en a des minuscules.
Oui, oui. Moi, je les vois plus que vous, parce que j'ai l'œil attiré toujours.
Monsieur est un habitué des oiseaux, et les oiseaux le connaissent. Alors, vous allez voir, il va faire venir les moineaux sur sa main d'une manière très, très spectaculaire. Parce que les oiseaux connaissent les gens. Vous voyez, les poules d'eau viennent parce qu'elles savent qu'il va leur donner du pain. Regardez.
Bestiole parisienne. Olivier Chaumel. Jean-Philippe Navarre.
Incroyable. Alors ça, je ne l'avais pas encore vu faire. Allez, voilà, la mouette se dispute avec la poule d'eau là pour attraper le pain.
Mais je suis passionné par les insectes, c'est assez curieux. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a intéressé dès que j'ai eu l'âge de 6, 7 ans, 8 ans. Moi, c'est les coléoptères seulement. J'en ai trouvé 600 dans Paris.
Rutilus.
Parfois en ville, on a plus de choses que dans certains coins de campagne.
C'est fabuleux. Il y a tous les soirs. Il y a le Père Lachaise, n'en parlons pas. Mais il y a aussi les jardins des gens, enfin, des insectes, il y en a partout.
Parus cachinans.
Donc Paris est, comme beaucoup de grandes villes, riche en nombreuses espèces, beaucoup d'oiseaux, un petit peu de mammifères, beaucoup d'insectes également. Et ça va un petit peu mieux qu'il y a quelques années.
Padorcis muralis.
Il y a beaucoup d'animaux, de toute façon, maintenant, qui réapparaissent parce que on ramène quand même les milieux favorables. On a pu voir quelques tritons, quelques salamandres,
Anguis,
les orvets, hein, qui étaient légèrement sur l'allée, en plein soleil. Donc tous ces animaux, les hérissons aussi.
Ah bah oui, voilà. Là, il y en a plus. Ouais, impeccable.
Elle bouge un peu la tête.
Celui, il y en a un qui est effrayé quand même. Celui qui remonte, je me demande, c'est pas un jeune de l'année. Il est beaucoup plus foncé que celui du dessous. Voilà, il y en a encore d'autres. Ça commence à bien se remplir.
Vous êtes passionné par la nature et ce soir, vous êtes invité chez des amis parisiens. Ils vont vous parler du marché de l'immobilier toute la soirée. Vers 2h du matin, faussez leur compagnie. Vous ne trouverez pas de taxi et ça tombe bien. Vous allez rentrer à pied en faisant le plus de détours possible, de façon à arriver à destination vers 5 heures. Vous aurez ainsi pas mal de chances d'apercevoir, s'enfuyant à votre approche de sous une voiture en stationnement et traversant le boulevard en trois bonds graciles, une fouine, mustélidée de l'espèce Martes foina. C'est vrai, il y a beaucoup de fouines dans Paris. Et si cette nuit vous n'en voyez pas, recommencez demain, depuis chez d'autres amis. La faune sauvage d'une grande ville est beaucoup plus riche qu'on ne l'imagine. Les Berlinois sont bien embarrassés avec leurs sangliers qui sortent des bois urbains pour venir terroriser les enfants et saccager les salons de coiffure. Des spongiaires aux mammifères, à peu près toutes les classes d'animaux figurent au bestiaire parisien. Remarquons le cloporte, crustacé isopode terrestre, inoffensif, sauf quand, sous son acception argotique, il est une acariâtre concierge qui vous interdit l'accès à tout lieu. Le plus insolite des animaux qu'on rencontre à Paris est encore, bien entendu, le naturaliste lui-même.
La nuit, je ne sais pas combien de renards rentrent, mais ils viennent pour la plupart du bois de Vincennes ou par les voies ferrées.
Georges Fetterman.
Moi, étant enseignant dans le 12e, il y a plusieurs fois des parents d'élèves qui m'ont signalé être rentré tard la nuit et avoir vu un renard en train de faire les poubelles, ce qui dans Paris est toujours... Et la mère, c'est une dame hein, du 12e, m'a dit qu'elle recevait des courriers de gens qui ont observé le renard dans le 12e et en lui disant « Mais vous ne faites rien, on va tous avoir la rage, on va tous tomber malades, rien n'est fait. » Et heureusement, elle se garde bien d'agir parce que c'est pas la présence de deux ou trois renards qui peut poser problème. Au contraire, c'est plutôt, je trouve ça plutôt une bonne nouvelle.
Élément d'éthologie, les renards et les fouines viennent en ville la nuit et repartent ou sont sédentaires ici ?
Ça dépend. Les renards, oui, ils rentrent en ville et repartent. Les fouines restent. Les fouines doivent se cacher sous un toit ou sous des tuiles, au fin fond d'une gouttière, et puis elles attendent le soir, mais elles ne s'en vont pas.
Il y a un moment où cet animal a découvert un nouveau milieu qui s'est révélé assez favorable.
Oui, mais ça c'est pas un phénomène nouveau que des animaux s'en rendent compte que le contact avec l'homme peut être un milieu favorable pour trouver un abri, pour se coller contre un mur, parce qu'il y a le chauffage à proximité, pour trouver de la nourriture facilement. Ça, c'est pas un phénomène nouveau. À la campagne, il y a toujours eu cette présence. Maintenant, dans la capitale, je pense qu'effectivement, comme on laisse un peu plus tranquilles les animaux qu'autrefois, voire on prend des mesures pour les préserver, mais tout naturellement, les effectifs réaugmentent.
Pour parler, on n'est pas obligé d'être dans l'endroit le plus glacial du parc.
Alain de Mouzon, vous êtes écrivain de littérature policière, mais pas seulement. Et vous êtes un naturaliste chevronné, je dirais. Et parmi différents endroits qu'on avait envisagés, mais proposé celui-là, le parc Kellermann.
Il est ignoré de beaucoup parce que il est juste à la frontière de Paris et de la banlieue. Hein. C'est une partie en fait qui n'est parisienne que depuis 1860. C'est typiquement quand même un parc parisien en ce sens que, et j'inclus dedans d'ailleurs les deux grands bois, Boulogne et Vincennes, qu'on n'arrive pas à faire un parc strictement végétal, on va dire. Il faut toujours qu'il y ait des installations sportives, des jeux d'enfants, tout un tas de machins nécessaires évidemment au bonheur de la population, hein, la plus large. Mais alors, il faut que cohabitent un petit peu toutes ces choses.
Et l'observation de la nature, alors, dans ce genre d'endroit, on est coincé entre le boulevard périphérique et les boulevards des Maréchaux.
Ouais, absolument, oui.
C'est là où ça n'empêche rien.
Il suffit d'être attentif. Ce qui compte, c'est le regard, c'est savoir traîner la semelle. Alors là, c'est vrai qu'on est dans l'hiver qui commence, c'est pas merveilleux. Là, je vois qu'il y a un oiseau sur la branche qui nous regarde, vous voyez, je sais pas trop d'ici ce que c'est. Ça a l'air d'être un rouge-gorge. Oui, il y a un hélicoptère qui passe, mais j'ai vu d'autres hélicoptères juste là, au bord, le périphérique longe le parc. Plusieurs fois, j'ai pu voir un faucon cresserelle chasser ce qu'on appelle au Saint-Esprit, c'est-à-dire il fait du surplace, vous savez, il bat des ailes très vite, et il reste pratiquement immobile comme un hélicoptère aussi qui marquerait le point au-dessus, et il cherche sa pitance au bord du périphérique. Alors pourquoi ? Il paraît que c'est comme pour les autoroutes, les petits campagnols ou les nourritures potentielles des faucons aiment bien ces zones-là, qui sont en général pas trop... elles ne sont pas piétonnières, il y a les bagnoles à côté, mais il y a une zone où il n'y a rien, il y a de la végétation qui pousse, il y a des herbes sauvages, donc il y a des bestioles, et puis les bestioles attirent les bestioles qui mangent les bestioles.
Faucon commun, Falco communis. Je suis heureux de pouvoir commencer ce catalogue par une observation empruntée au plus éminent ornithologiste de notre époque, M. Zéphirin Gerbe. Il y a quelques années, dit-il, un faucon pèlerin était venu s'établir en septembre sur les tours de la cathédrale de Paris. Pendant plus d'un mois, il y demeura. Il faisait tous les jours capture de quelques-uns de ces pigeons que l'on voit voltiger ça et là au-dessus des maisons. Lorsqu'il apercevait une bande de ces oiseaux, il quittait son observatoire, rasait les toits ou gagnait le haut des airs, puis fondait sur la bande et s'attachait à un seul individu qu'il poursuivait avec une audace inouïe, quelquefois à travers les rues des quartiers les plus populeux. Rarement, il retournait à son poste sans emporter dans ses serres une proie qu'il dépeçait tranquillement et sans paraître affecté des cris que poussaient contre lui les enfants. Il chassait le plus habituellement le soir, entre 4 et 5 heures, quelquefois dans la matinée. Tout le reste de la journée, il se tenait tranquille. Les amateurs, aux dépens de qui vivait ce faucon, finirent par ne plus laisser sortir leurs pigeons, ce qui probablement contribua à l'éloigner d'un lieu où la vie était pour lui si facile. Néré Kepa, Ornithologie parisienne, 1874.
La voie ferrée était là
ou... Oui, là, c'est la voie ferrée de la ligne Bastille-Nogent. Donc, c'est une voie ferrée qui sortait de Paris. Il y a une trentaine d'années, il y a eu la bonne idée d'établir un vaste espace vert devenu pour le public la coulée verte et officiellement la promenade plantée.
Georges Fetterman, vous êtes naturaliste, amateur, éclairé ?
Oui, et puis un peu professionnel puisque c'est mon métier. Et puis je fais pas mal de choses sur la découverte de la nature à travers la France et beaucoup dans Paris aussi. Flore, faune, pour essayer de faire voir aux Parisiens, aux petits et aux grands, hein, parce qu'on dit toujours c'est pour les enfants, la nature, mais moi je considère que c'est pour tout le monde. Tiens, ça c'est un figuier. Et à Paris, les figuiers font des figues. J'en ai jamais mangé dans la capitale d'ailleurs, pour voir si elles étaient bien comestibles, mais...
Je crois qu'elles ont du mal à mûrir.
Elles ont du mal à mûrir, oui, dans Paris, oui. C'est pas trop la période des chants d'oiseaux, mais on en entend quand même un habitué d'un endroit comme ça, qui est la corneille noire, que tout le monde appelle corbeau. On peut dire un petit mot de la corneille ?
Oui.
Jusqu'en 1970, je crois, il n'y avait pas une seule corneille dans Paris. Et maintenant, elles sont présentes au point que les gens qui se promènent dans les jardins ont l'impression que c'est un des oiseaux avec les pies les plus communs. Alors oui, un petit détail parisien... C'est que la plupart des corneilles noires sont pas complètement noires à Paris. Elles ont souvent quelques plumes blanches sur les ailes à cause d'un déficit de carence alimentaire parce que leur nourriture est pas assez variée et donc elles n'arrivent pas à synthétiser leur mélanine, ce qui colore le plumage en noir. Comme on voit ici, les sacs poubelles, là, elles sont passées maîtresses dans l'art de percer les sacs poubelles.
Effectivement, c'est assez spectaculaire. Et ça prouve l'intelligence de ces animaux. C'est que lorsqu'elles aperçoivent quelque chose qui paraît mangeable, elles déchirent le sac un peu transparent. Et évidemment, les ordures se répandent et elles font le tri.
Celle de droite, elle a un morceau, qu'elle a un bon petit morceau de sandwich ou que sais-je, qu'elle a trouvé. Elle l'a dans le bec. Elle aimerait bien le mettre de côté parce qu'elle a assez mangé aujourd'hui et elle préfère se faire un petit garde-manger. Regardez, elle va le déposer dans la pelouse et elle va prendre une feuille. Elle l'a repris pour l'instant. Voilà, elle l'enfonce, vous le voyez faire. Ah, mais elle est gênée par les autres.
Elle a été repérée. Oui.
Voilà. Donc, le but, ça va être d'attendre que les autres ne la voient pas. D'en profiter pour vite faire un trou dans la pelouse. Mettre la nourriture au fond. Recouvrir d'un petit tampon d'herbe ou de feuilles mortes, et puis comme ça, c'est mémorisé. Alors chaque corneille peut avoir comme ça.
Elle se souviendra de l'endroit de la pelouse où elle aura mis son petit bout de.
Comme avec un GPS.
De frites.
Ce dont on est sûr maintenant, c'est que les oiseaux ont une idée de l'avenir. Il y a une expérience extrêmement intéressante qui se passe de la manière suivante. Vous avez, je simplifie là aussi, hein, vous avez deux corneilles, une qui est dans un abri, ça se passe en parc zoologique, hein, une qui est dans un abri. Munie d'une vitre. Donc elle voit ce qui se passe à l'extérieur. Et à l'extérieur, il y a une de ses congénères à qui on a donné de la nourriture. La congénère sait que l'autre la regarde par la fenêtre de la cabane. Elle cache la nourriture en sachant qu'elle est vue. On donne la liberté à celle qui était dans l'abri. Entre le moment où l'oiseau quitte la fenêtre où elle observait et le moment où elle va sortir de l'abri, la première corneille récupère sa nourriture et va la planquer ailleurs. Ce qui signifie qu'elle a anticipé le fait que l'autre avait vu où elle avait mis la nourriture et qu'elle allait venir pour lui piquer sa nourriture. Donc, les chercheurs en ont déduit qu'elle avait une préfiguration de ce qui allait se passer.
En fait, Guillain Le Saffre, vous êtes une sorte d'amateur érudit de l'ornithologie. Vous êtes très impliqué. Mais ça n'est pas pour autant votre profession.
Non, c'est mon violon dingue. Hein, mais depuis tout petit, aussi loin que je remonte, j'ai été intéressé par la nature. Ça a commencé avec les insectes et puis assez rapidement, quand j'ai eu 14 ou 15 ans, je me suis tourné vers les oiseaux et depuis ça ne m'a plus quitté.
Le vent est frais, la lumière est belle et la pluie n'est pas venue comme on la redoutait. Donc c'est peut-être... Voilà, oui. on pourrait se régaler de regarder un peu les bestioles. Il y a même un petit oiseau qui a fait un piou-piou derrière. Tout peut être sujet d'émerveillement.
Ça vous est venu comment, cette marotte, Alain de Mouzon ?
Disons que moi d'abord, bon, j'ai écrit enfermé chez moi pendant fort longtemps. Et un jour, mais quand je dis enfermé, c'est que je suis capable de rester 15 jours, 3 semaines sans sortir du tout de chez moi. Hein. Et je me suis dit que c'était quand même un peu dommage. Donc je me suis acheté une paire de godasses. Je suis parti marcher dans la ville autour de chez moi. Puis j'ai découvert des arbres que je ne connaissais pas. À un moment, on plantait dans le 13e, on refaisait l'urbanisme. Et on cassait beaucoup d'immeubles, mais on plantait aussi pas mal d'arbres. Petit à petit, je me suis mis aux arbres. Puis comme je dis, comme les arbres ont inventé l'oiseau, je me suis mis aux oiseaux. Et puis les oiseaux aussi mangent des insectes, certaines espèces. Ah, je me suis dit, là, ça va devenir difficile, parce que les insectes, c'est des milliers de spécimens. Bon, les oiseaux, on arrive assez vite à les connaître.
Mais on ne peut pas avoir toutes les spécialités
en même temps, sciences naturelles. Mais on le fait un peu, le côté promeneur comme ça, honnête homme, comme je dis, savoir de tout un petit peu, ça fait du plaisir. Bon, la botanique, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai que la botanique, comme je dis, c'est au moins l'avantage, on n'est pas obligé de courir après, quoi.
Chez vous, Alain de Mouzon, les observations naturalistes ne nécessitent même pas de sortir de chez soi, parce que j'ai découvert en vous lisant la notion de window list. Donc c'est un terme anglais assez facile à traduire, c'est la liste de la fenêtre, qui consiste à nommer, à faire la liste des oiseaux qu'on voit depuis sa fenêtre.
Absolument,
depuis
la fenêtre
de votre bureau, j'imagine.
J'ai employé un mot anglais, mais bon, j'aime. Oui. Non, continuez, finissez votre question.
À votre exemple, j'ai fait la mienne, et j'en étais tout content, mais en fait, elle est beaucoup plus modeste que la vôtre. En plus, vous savez les noms latins des oiseaux. Moi, je ne mets que les noms de gens. Ben voilà, j'arrive à ceci. Pigeon de ville, pigeon ramier, corneille, jai, pie, merle, étourneau, martinet, moineau, mésange, rouge-queue, rouge-gorge et faucon cresserelle. C'est tout. Si je compte bien, ça fait 12 ou 13. Et vous êtes à 34, je crois.
Mais non, mais c'est pas mal, 12. Vous savez, vous allez demander à la plupart des gens ce qu'il y a comme oiseau à Paris. Et la plupart vont pas pouvoir citer 3 ou 4 noms. Enfin, au-delà de 3 ou 4 noms. Hein. Les gens disent, oui, il y a des merles, des fois. Oui. C'est comme les mouettes. Alors, oui, mais non, ça, c'est pas une mouette, c'est un goéland. Alors, c'est là où on commence à devenir un petit peu ornithologue, quand on fait la différence entre deux appellations.
On entend les mouettes, là, effectivement. Dans Paris, vous avez deux oiseaux de la famille des laridés, qui sont la mouette rieuse et le goéland argenté. Les mouettes rieuses, il y a très longtemps qu'elles sont présentes dans Paris. Et alors elles ont une particularité que j'ai remarquée, qui est assez extraordinaire. Elles ont un agenda des marchés parisiens. Le mardi, il faut venir avenue Daumesnil. Le samedi, elles vont aller sur le cours de Vincennes. Elles connaissent par cœur les dates de marché parisien.
Et l'heure de la remballe.
Et l'heure où on remballe, et où il y a des légumes, des tas de nourriture à récupérer. Elles viennent plutôt en période hivernale dans Paris. Quant au goéland argenté, pour le distinguer, déjà, il y a une distinction majeure, il est deux fois plus gros, hein, à peu près. Et c'est cet oiseau dont on a l'impression, qui provoque l'impression d'être au bord de la mer à certains moments dans la capitale, mais ça fait que quelques années qu'il est rentré dans Paris, à partir d'une petite colonie qui perchait sur les grilles du Jardin des Plantes.
Là, les mouettes sont forment ce qu'on appelle des reposoirs. Il n'y a pas beaucoup d'endroits à Paris où les pelouses sont absolument interdites au public. Et les mouettes s'en sont rendues compte, se sont appropriées ces lieux où elles passent les mois d'hiver depuis le mois de, grosso modo, enfin l'hiver des oiseaux, c'est-à-dire à partir d'août-septembre en fait, jusqu'au mois de mars. Fin mars, il n'y a pratiquement plus de mouettes, elles sont reparties vers les lieux de nidification. La mouette lituanienne qu'on va essayer d'aller voir tout à l'heure, elle parcourt au minimum 2000 km pour venir de Lituanie. Et comme c'est la deuxième année qu'elle est là, elle a donc déjà au compteur, entre guillemets, au minimum 8000 km. Il faut savoir que les oiseaux sont extrêmement routiniers, un petit peu comme nous finalement, hein. Quand on a repéré un bon resto sur la route des vacances, on s'y arrête plutôt que d'aller à l'aventure quelquefois. Là, pour les mouettes, c'est exactement la même chose. Ici, toutes les conditions sont réunies pour être tranquille, pas de chien, pas d'intrusion du public sur les pelouses et de la nourriture à satiété, puisque les touristes sont toujours présents, ou les groupes scolaires, et laissent toujours de la nourriture. Et comme les mouettes sont opportunistes, elles peuvent se saisir de toutes les occasions et être assez grassement nourries.
Là, c'est ce qu'on appelle en jargon un buzz de capture. C'est-à-dire, vous allez entendre que les cris s'accélèrent énormément. C'est quand la chauve-souris, voilà. Quand il s'accélère, il s'affaiblit. En fait, c'est quand elle a repéré un insecte, donc elle envoie beaucoup plus de cris, enfin sur un rythme beaucoup plus élevé pour avoir plus d'informations au moment de la capture.
Que la localisation soit plus précise.
Voilà.
Vous êtes spécialiste des chiroptères, Jean-François Julien.
Oui.
Vous travaillez au muséum. Les chiroptères, ce sont les chauves-souris. C'est-à-dire, ce sont des mammifères dont la main est une aile.
La main est transformée en aile, donc c'est ce que ça veut dire en grec. Enfin, le mot a été formé à partir de racines grecques, quoi, qui veulent dire ça.
C'est un ordre très nombreux et varié.
C'est le deuxième. Alors, dans la classe des mammifères, c'est le deuxième ordre en quantité d'espèces, en diversité, après les rongeurs.
Pas loin d'un millier, j'ai vu.
Plus d'un millier, sans doute. Oui, entre 1200 et 1300 espèces.
Et on rencontre lesquelles à Paris ?
Sans le bois de Boulogne et sans le bois de Vincennes, vraiment dans Paris, on n'a guère que 4 espèces de pipistrelles et une bête un peu plus grosse, la noctule commune, qu'on trouve sur la Seine. Pour l'instant, on ne l'a rencontrée, entendue que sur la Seine, en aval du Trocadéro.
Et vous nous soumettez des sons de chauves-souris. Or, que je sache, les chauves-souris émettent des ultrasons que par définition on n'entend pas.
En général, ce sont des ultrasons et qui sont émis pour s'orienter et surtout pour repérer leur proie. Donc ces sons, alors qu'on appelle d'écholocation, puisque c'est une localisation par l'écho, vont de 9000 Hz au minimum, donc là dans une gamme tout à fait audible pour nous. Ça, c'est le cas d'une grosse chauve-souris de la région méditerranéenne, le molosse, jusqu'à un peu plus de 110 000 Hz, 110 kHz pour une petite espèce qu'on trouve encore en Île-de-France, le petit rhinolophe. Ça faisait des siècles que certains s'interrogeaient sur la faculté des chauves-souris à s'orienter dans l'obscurité, à repérer leur proie. Mais ça n'est vraiment qu'à la fin des années 30 qu'un Américain, Donald Griffin, a vraiment compris et mis en évidence l'utilisation d'ultrasons et de l'écholocation pour ça. Donc on utilise actuellement, nous, ce qu'on utilise le plus, c'est le principe de ce qu'on appelle l'expansion de temps, qui est assez simple. Ça consiste à enregistrer le son, donc en l'occurrence des ultrasons, en direct, et puis à les rejouer, à les rediffuser sur un rythme 10 fois inférieur. Et ça, en même temps, automatiquement, ça divise les fréquences par 10. Et ça les ramène dans le domaine audible. Voilà. D'une façon générale, les chauves-souris sont des animaux nocturnes qui se cachent pendant la journée, qui ont l'air assez peu accessibles à l'étude, finalement. C'est beaucoup plus compliqué que les oiseaux. Les oiseaux, on les voit bien. Quand ils chantent, on les entend directement, on reconnaît leur chant. Donc les chauves-souris, c'est plus compliqué, mais elles ont quand même un avantage. C'est comme la plupart dépendent de l'écholocation, elles sont presque tout le temps détectables. Elles émettent des sons continuellement, en permanence. Je ne dirais pas que chaque espèce a des signaux bien particuliers, on a quelquefois du mal à les séparer, mais en règle générale, on arrive quand même à identifier une espèce simplement sur les caractéristiques de son signal d'écholocation.
Jean-François Julien, on va bientôt aller ensemble à la rencontre de la grande colonie de pipistrelles qui se trouve dans le 14e arrondissement.
Oui.
Et c'est une colonie qui s'est installée apparemment assez récemment.
Alors on ne sait pas quand elle s'est installée. Elle a été découverte il y a une vingtaine d'années, donc dans un tunnel de la petite ceinture de Paris. Donc à l'époque, il circulait quelques trains et on pouvait compter dans ce souterrain de l'ordre de 200 à 300 bêtes. Et puis, 2 ans après, le trafic s'est totalement interrompu. Et là, on a vu les effectifs monter jusqu'à atteindre 1500 animaux. Donc ça devait être dans le début des années 2000. Et puis depuis, malheureusement, ça ne fait que décroître progressivement. Donc là, on est retombé à peu près 500 bêtes qu'on peut compter en hiver.
Yann Crochet. Non seulement il y a une faune sauvage abondante à Paris, mais en plus il y a des photographes animaliers.
Je dirais que je suis plus naturaliste et la photographie est pour moi un moyen d'immortaliser des scènes de vie. Par exemple, là, on se trouve au parc de Bagatelle. Vous voyez, là, on a des oies bernaches du Canada qui viennent nous rendre une petite visite. Elles sont curieuses.
Oui, non seulement elles ne sont pas farouches, mais elles viennent vers nous.
Exactement. Et on peut observer leur sublime plumage avec les petites gouttelettes d'eau qui roulent sur leurs plumes.
Elles sont en migration, là ?
Elles sont... Alors, celles-ci sont... Alors, normalement, c'est la migration, effectivement, mais elles sont ici, elles sont sédentaires maintenant. Il y a à peu près... une vingtaine d'individus et elles naviguent entre différents parcs parisiens. Donc à chaque fois qu'il y a des points d'eau, elles viennent s'épouiller. Voilà, on entend un vol au-dessus de nous là, par exemple. Voilà, là on va avoir un amérissage très très prochainement et elles vont rejoindre leurs collègues. Voilà. Sublime d'entendre de les entendre faire du patinage ou du ski nautique sur l'eau. Quand les bernaches du Canada arrivent, tout de suite les colverts font place à ces gros hydravions.
Comment est-ce qu'on procède, Yann Crochet, quand on est photographe animalier à Paris?
J'ai pas besoin de tenue de camouflage parce que les oiseaux sont quand même assez peu farouches. Tout simplement, moi j'observe beaucoup aux jumelles, je fais beaucoup de repérages pour voir les individus qui se trouvent dans les différents parcs. Et puis après, je me place dans des endroits un peu stratégiques jusqu'à saisir l'instant T, en fait, hein, des comportements, des attitudes. Ouais, splendide. Et voilà, un conciliabule maintenant. Et on a la chance de voir ça. Elles viennent nous saluer, hein, en fait. Hein.
Oui, c'est étonnant comme comportement. Elles sont une trentaine maintenant. Hein.
Voilà, à peu près. Ouais.
C'est très digne, je trouve, comme animal.
Et puis, il y a une meneuse ou un meneur hein, qui est...
Il y a mâle et femelle, là ?
Il y a mâle et femelle. Alors, je peux pas vous dire exactement comment on les détermine, mais justement...
Apparemment, l'individu qui se tient le cou plus haut que les autres...
Voilà.
Aurait plus et de responsabilité.
Voilà, qui est la vigie et qui donne le ton à tout le monde.
Le vrai dialogue avec la nature, c'est seul. C'est absolument presque impossible autrement, sauf avec un bon copain qui sera resté silencieux, on va marcher à quelques mètres l'un de l'autre. Mais autrement, les êtres humains se mettent à parler entre eux et c'est fini.
Et vous emportez un carnet?
Le carnet, il est utile parce que quand on rentre à la maison, on va faire le bilan de ce qu'on a vu et de ce qu'on voudrait connaître, quoi, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas su, on est incertain, sinon, bon. Alors les oiseaux qu'on connaît déjà, bah oui, ceux que j'appelais les usuels ou les habituels, bah, faut pas les dédaigner. Je veux dire, le premier truc, quand on va faire une balade chez les oiseaux, on vérifie les évidences. C'est-à-dire que si on commence à dire « Ah oui, ça là-bas, c'est un moineau », ce qui est gris là-bas, bon, ça c'est un autre moineau, et ça là-bas, ça doit être un moineau. Si vous faites ça, vous allez passer à côté, parce que pour les vérifier, les évidences, c'est peut-être pas du tout ce que vous croyez à une certaine distance. Donc avec les jumelles, vous allez dire, tiens, ben, c'était pas ça du tout, c'est telle et telle espèce, je la connais, et si je la connais pas, évidemment, il y a un petit bonheur, un petit pincement particulier de faire ce que les naturalistes, les ornithologues de terrain appellent une coche. Alors on fait une coche, c'est parce qu'il y a la liste dans les guides d'oiseaux, où en général il y a une liste, et chaque fois qu'on rencontre une nouvelle espèce, on met une petite coche en disant, on note la date, même éventuellement le lieu, ce que je fais souvent, on note ce qu'on a rencontré. Donc il y a aussi une petite comptabilité, il y a une petite épicerie comme ça.
Pinson ordinaire, Fringilla celeps. Au moment des passages, en automne et au commencement du printemps, les pinsons séjournent volontiers au Père-Lachaise. Ils affectionnent particulièrement la pente qui se trouve un peu au-dessus de la partie du cimetière, nommée l'Orangerie. Été comme hiver, d'ailleurs, on trouve beaucoup d'oiseaux au Père-Lachaise. Cela tient à ce que dans le séjour des morts, ils sont tranquilles, trouvent de l'ombre, de la fraîcheur, une nourriture abondante et un asile protecteur. Là, les oiseaux peuvent en toute sécurité construire leur nid et élever leur famille. Et tandis que devant eux passent les corbillards, ils chantent. Chanter,
Chantez, petits oiseaux, j'aime mieux entendre vos joyeux accents que les pleurs hypocrites qui accompagnent la plupart des morts. Chantez. Mais si par hasard, vous voyez venir la dépouille d'une jeune fille ou d'un petit enfant, si sur un cercueil vous apercevez une couronne blanche, un bouquet de lilas ou de fleurs d'oranger, oh, alors restez immobile, restez muet sur la branche. Associez-vous à une vraie douleur, chers petits oiseaux.
Nerekepa, ornithologie parisienne.
Quand je rencontre une nouvelle espèce, je fais une petite aquarelle après coup, comme ça, un petit dessin que je colle dans mon carnet. Voilà, ça enjolive un peu les pages.
Ça fait partie de cette belle notion d'amateur en sciences naturelles et particulièrement en ornithologie, où il y a une démarche rigoureuse afin de loisir.
L'amateur, c'est celui qui aime, hein, l'étymologie. Ça. C'est l'amoureux, pratiquement, l'amateur. Hein, c'est... Moi, je ne suis pas un cavaleur d'oiseaux. Vous savez, comme je l'ai dit des fois, je me dis, les autres ornithos, t'en rencontres sur le terrain. Ben, je dis oui, des fois, ça arrive, mais on me dit comment on les reconnaît. Oh, ben, je dis, c'est facile. En général, ils ont toujours vu plus d'oiseaux que vous et des beaucoup plus gros. Donc si vous leur dites « Ah tiens, hier j'ai vu une autruche au jardin du Luxembourg », ils vous disent « Ah oui, non, mais c'est une égarée du troupeau de 250 que j'ai vu avant-hier. »
On a de temps en temps des petites surprises, comme durant l'hiver dernier, ces petites mésanges à longue queue, à tête blanche, qui provenaient de... Alors on ne saura jamais d'où elles venaient exactement, mais qui pouvaient provenir de Russie, par exemple, ou de Scandinavie, et qui n'avaient jamais été notées en France avant cette date-là. C'est un petit passereau tout à fait anodin par ailleurs, si ce n'est que c'est assez actif, ça vit en groupe, ça pousse des petits cris sans arrêt, c'est assez mignon si vous voulez. On dirait des petites peluches, avec des petits yeux en forme de grains de mûre. Donc
elles
ça
peuvent être un peu ébouriffées aussi.
Voilà, c'est ça, c'est un aspect très pelucheux. Et donc, leur beauté jointe à leur rareté ont drainé vers les Tuileries des observateurs comme moi j'en avais jamais vu avant. C'était assez amusant.
Elles étaient nombreuses ?
Il y en avait 4 ou 5. Il y en a 4 ou 5. Voilà. Mais ça suffisait à notre bonheur.
Vous avez un nid de troglodyte qui est logé sous le tunnel ici, là. Troglodyte mignon, c'est très tout petit. C'est... Je vais juste chercher des gilets orange fluo, là. C'est les fameux vélorails.
Je n'ai jamais utilisé ce moyen de transport avant.
Le seul inconvénient, faut qu'on le retourne, qu'on arrive à un bout.
On fait comment pour le retourner ?
Bah,
ça doit être terriblement lourd. Bon, ben, on est sur cette embarcation ferroviaire qui est un vélorail. C'est quand même pas très discret comme moyen de transport. Pour approcher la faune sauvage, dans de bonnes conditions, il y a mieux.
Bah ouais, c'est sûr. Justement, en plus, on va rentrer dans le tunnel à chauve-souris. Ça doit les déranger un petit peu, mais après, on n'a pas une grosse fréquence de passage non plus. En même temps, ça nous permet de faire un rôle de veille, hein, de cheminer assez rapidement sur tout le linéaire. Et... Bon alors, je pense qu'il va falloir s'arrêter là, si on veut en repérer,
oui.
Parce que il faut voir. Elles sont donc dans les là où les joints sont partis entre les plaques de béton.
Ouais, c'est un peu. Je vais peut-être descendre, ouais.
Donc voilà, en fait, on les cherche, on les compte comme ça, ce qui est pas très facile. Là, il y en a une. Je sais pas si vous la voyez, elle est vraiment enfoncée dans la fissure là.
Jean-François Julien, vous êtes chercheur CNRS,
oui.
Affecté au muséum, et votre travail s'occupe des chauves-souris. Et là, nous sommes dans un tunnel de la petite ceinture ferroviaire de Paris, dans le sud de la ville. Un tunnel entièrement en béton, de section rectangulaire. Et moi, j'imaginais que les chauves-souris cherchaient des abris un peu moins modernes, un peu moins géométriques.
Oui, mais nous aussi, à vrai dire, hein, on a inspecté la plupart des tunnels, quasiment tous les autres tunnels de la Petite Ceinture sont des tunnels voûtés en pierre meulière, qui offrent quelques fissures et quelques abris. Et en fait, la seule concentration importante a été trouvée ici, dans ce tunnel beaucoup plus récent, beaucoup moins romantique d'aspect. Donc voilà, c'est un cas un peu spécial pour un gîte souterrain.
Ce sont des animaux minuscules. J'ai lu que ça pesait 6 à 8 grammes, quelque chose comme ça.
Oh, oui, même quelquefois 4 grammes seulement. Hein, oui. Pour une envergure d'une nœud, la pupistrelle, ça va faire entre 15 et 20 cm d'envergure. Donc c'est beaucoup plus léger qu'un oiseau qui aurait la même envergure. Là, c'est vraiment je pense que c'est le gîte où on a compté le plus d'hivernants de cette espèce en France, ce qui est paradoxal puisqu'on est vraiment dans une zone très très urbanisée. On a pu dire, en tirant vraiment les conclusions, que c'était le plus gros rassemblement de mammifères sauvages d'Île-de-France. Si on excepte peut-être les rats d'égout, les rats sur mulot, qui sont vraiment très très abondants dans Paris. Donc c'est un peu insolite dans une grande ville comme celle-ci.
Et ça fait une biomasse assez peu importante finalement. Ah oui, 500 fois 6 grammes, biomasse, ça fait 3 kilos de pépistrelles.
Voilà, oui, ça fait 500 fois, mettons qu'elles fassent peut-être 6 grammes en début d'hiver, elles engraissent un peu. Si elles font 6 grammes de moyenne, ça fait 3 kilos. Oui. Là, en poids, le moindre renard les bat largement.
Comment vous procédez pour les compter ?
Avec une lampe torche, là, comme on vient de faire, on essaye de compter celles qui sont à peu près à hauteur d'homme. Et puis, pour celles qui sont au-dessus de 2 mètres de hauteur, là, on se place au milieu du tunnel avec une paire de jumelles et en tenant une torche en même temps. Et on balaye toutes les fissures et on compte.
Vous êtes à peu près maintenant, en début d'hibernation ?
Non, on le fait plutôt en janvier ou fin décembre à la limite. Là, il y en a plusieurs. Ouais, impeccable.
Elle bouge un peu la tête.
Alors, les jeunes sont souvent plus sombres et plus gris. Il y en a un qui est effrayé quand même. Celui qui remonte, je me demande, c'est pas un jeune de l'année. Il est beaucoup plus foncé que celle du dessous. Ça ressort presque. Voilà, il y en a encore d'autres. Mais ça commence à bien se remplir.
Et là, en plus des quelques fréquences audibles qui nous parviennent,
oui,
il y a plein d'ultrasons au-dessus, Jean-François Julien.
Dans leur gîte, en général, elles n'en émettent pas beaucoup. Si quelqu'un passe à côté, effectivement, elles vont essayer de voir comme on le ferait avec les yeux, de dévisager, d'inspecter. Alors, quand on les voit de près comme ça, même posées, on voit bien qu'elles ouvrent et qu'elles ferment la bouche. En fait, on les voit crier sans entendre. Puis on se rend compte, elles tournent la tête, un peu comme quand on regarde, enfin qu'elles balayent. Si on est très près d'une chauve-souris, on se rend compte qu'elle est en train de faire de l'écholocation.
Jean-François Julien, vous êtes spécialiste des chiroptères, mais lorsque vous venez dans un environnement très singulier comme celui de la petite ceinture,
oui,
vous êtes attentif au reste du biotope ?
Oui, et puis même plus que le biotope, c'est vrai. Bon, moi, c'est un des aspects que, justement, un peu annexe, mais que j'aime bien dans l'étude des chauves-souris, c'est qu'on se retrouve dans des endroits comme ça, un peu improbables pour un naturaliste, insolites et pas forcément déplaisants. Ouais.
Ici, la petite ceinture, c'est un peu secret, un peu rêvé, un peu interlope aussi.
Oui, oui, on peut y voir tout un tas de gens, donc quelques personnes sans domicile qui ont élu domicile. Donc là, les chauves-souris ont un voisin qui d'ailleurs vit là dans une petite casemate au bord de la voie, mais qui fait attention, hein, qui nous dit quelquefois qu'il observe beaucoup d'activités en automne. Enfin, de temps en temps, on discute avec lui.
C'est un relais important de l'observation.
Ça pourrait l'être, oui, oui, en cas de problème, oui, là. Et puis, il y traîne du monde, des lycéens qui font l'école buissonnière, ça arrive, on en rencontre de temps en temps. Mais je veux dire que quand on fait les comptages en hiver et qu'on arrive à deux avec des torches, des paires de jumelles et qu'on inspecte les parois, on voit vraiment tous ceux qui fréquentent habituellement la petite ceinture, on a l'impression de les repousser à distance. Ils se méfient beaucoup, ils doivent penser qu'on est des employés de Réseau Ferré de France, donc ils gardent leur distance en croisement.
Des étourneaux là-haut ?
Voilà, là on voit des étourneaux qui sont en train de former ce que l'on appelle des prédortoirs, c'est-à-dire qu'ils se sont nourris toute la matinée, depuis très tôt ce matin. Ils étaient à droite, à gauche, un petit peu partout en région parisienne. Et puis là, ils commencent à... Parce qu'il est relativement tard, hein, il est déjà 14h10. À 16h, les oiseaux seront pratiquement tous au dortoir. Et là, ils se rassemblent avant de gagner, à la nuit tombée, le dortoir. C'est-à-dire qu'un oiseau ne s'expose pas dans un dortoir au vu et au sud de tout le monde. Il va attendre qu'on soit entre chien et loup, et à ce moment-là, à toute vitesse, le dortoir sera gagné, silencieusement, et ce sera le dortoir définitif. Alors, on s'est rendu compte d'une chose assez extraordinaire à propos de ces cris de pré-dortoir ou de dortoir, c'est que c'était l'occasion pour les oiseaux d'échanger des informations sur les lieux de gagnage. Les lieux de gagnage, ce sont les lieux où les oiseaux se nourrissent pendant la journée. Et on a très bien pu déterminer par des études avec marquage coloré des oiseaux qu'ils se répartissaient en fonction des informations qui sont données. C'est-à-dire que ceux qui disent « j'ai trouvé quelque chose au nord-ouest, venez avec moi », hop, ils suivent ce leader, si vous voulez, et ils vont aller se nourrir dans cet endroit-là. Et les groupes se forment petit à petit, et le matin, quand on voit partir les groupes, on en voit partir au nord, d'autres partir au sud, d'autres partir à l'ouest, chacun avec sa propre stratégie. Ça évite qu'il y ait une surpopulation sur un même endroit de nourrissage. Alors là, il pleut. Vous savez, quand on s'intéresse, on va chercher un abri.
Hein. Mais l'ornithologue est waterproof.
L'ornithologue est quasiment waterproof. C'est-à-dire qu'en fait, il est porté par sa passion. Et du moment qu'on voit des choses intéressantes, ma foi, on oublie qu'on se fait mouiller. On va aller voir P507, là. Parce que je voudrais pas qu'elle s'en aille. Elle s'appelle P507, voilà.
Vous pourriez lui trouver un joli prénom lituanien.
Voilà, alors il faudra que je demande à Vytautas Paregis, qui est le bagueur de cet oiseau. Il l'a bagué en avril 2010. Et nous l'avons eu pour la première fois à l'automne 2010. Puis elle a quitté la région parisienne au printemps 2011. Et on l'a vu revenir donc cet été là. Alors est-ce que c'est elle là? Je vais prendre mes jumelles. Si c'est elle, c'est elle.
Sur la statue?
Voilà, sur la statue. Alors elle est toujours sur cette statue. Elle a trouvé un site qui est excellent pour elle parce qu'il est à proximité d'un bistrot là.
Qui produit des miettes.
Qui produit des miettes, qui produit des petits déchets, et puis de temps en temps les serveurs lui jettent quelque chose. Et alors, elle défend farouchement son site. Je ne sais pas si vous allez la voir faire, mais si jamais une autre mouette ose venir dans son territoire, elle lui fonce dessus et elle la chasse.
Mais elles se comportent toutes comme ça, les mouettes, ou c'est son caractère à elle, à P507?
Alors, les oiseaux ont un caractère. Ça, c'est quelque chose que les gens ne soupçonnent pas. Et P507, là, on peut la ranger dans la catégorie des dominants. Hein, parce que vous savez, chez les oiseaux, il y a des oiseaux qui sont dominants et qui imposent leurs lois aux autres, hein, pour les meilleures sources de nourriture ou pour les femelles les plus aptes à la reproduction.
C'est une femelle?
On ne peut pas savoir. Chez la mouette rieuse, les sexes sont semblables. Alors on peut avoir une petite idée parce que dans la moyenne, les femelles sont un peu plus petites que les mâles. Donc on se contentera de dire que c'est un adulte. Lorsqu'on revoit un oiseau migrateur en général, on parle de contrôle. Là, on va faire justement un contrôle. Donc, je prends mes jumelles et je vois la bague. Je vous invite à faire la même chose. Arrivez-vous à voir la bague noire
sur la patte gauche?
Voilà. Est-ce que vous devinez P507?
Oh, moi, je dirais que c'est P507.
Voilà. Et à droite, vous avez une bague métallique sur laquelle figure le code.
Ouais, c'est ça.
Voilà, qui doit être, je ne me souviens plus exactement, je crois que c'est 13302 ou quelque chose comme ça, avec le code du pays.
Dans le 13e, près de chez moi, là, aux Olympiades, des faucons nicheront sans doute sur les tours des Olympiades. Oui. C'est vrai que voir le faucon cresserelle, à une époque, ça a été une découverte. On espère en faire venir une autre espèce plus rare à Paris, qu'est le faucon pèlerin, sur les tours de la bibliothèque Mitterrand. Tous les oiseaux qu'on a à Paris ne sont pas des oiseaux nicheurs à Paris. Ils font pas forcément une reproduction à Paris, mais ils sont là une bonne partie de l'année. Donc si on leur fiche la paix, s'ils ont de quoi se nourrir, ils peuvent très bien s'installer. Alors c'est comme ça qu'on a vu s'installer le merle noir banal à une époque, lointaine, mais qui était un oiseau strictement forestier, et qui a fini par devenir un oiseau des villes.
Alors vous vous mettrez à l'entomologie quand vous aurez fait le tour de l'ornitho?
Je fais un petit peu, Je fais ma liste, d'ailleurs, non pas window, mais house, on va dire liste, puisque j'ai pris pour principe de noter tous les insectes que je rencontrais chez moi, dans ma petite maison, là, dans le 13e.
Insectes et autres arthropodes.
Insectes au sens très, très général. Bah, j'avais eu un beau souvenir l'année dernière, c'est que je me suis trouvé de nuit au bois de Vincennes. J'aime bien vers la Saint-Jean, là, de faire une balade quand c'est la journée la plus longue de l'année. Et c'était la floraison des lucanes, le lucane cerf-volant, vous voyez, ce gros insecte là, dont le mâle a deux grosses comment dire,
mandibule,
enfin l'espèce qui ressemble à des cornes de cerf un peu. Puis la femelle, on l'appelle la biche. Et il y en avait, c'est un truc d'enfant, j'avais toujours rêvé d'en voir comme ça. Ça vole un peu lourd comme un cargo surchargé qui a du mal à décoller en bout de piste. Hein, ouais.
Avec un bruit un peu identique.
Ça vronvron un peu, mais bon. Bah, j'étais heureux parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, je suis comme un gosse. Ces choses-là, c'est une bonne façon de rester encore un petit garçon. Quoi.
Grand Capricorne, Cérambyx cerdo. Petit Capricorne, Cérambyx scopoli.
Moi, c'est les coléoptères seulement. Hein. Parce qu'on peut faire les papillons, on peut faire les punaises, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi, si vous voulez, mais.
On n'en sort plus. Henri Englebert.
Vous savez, les coléoptères, il y en a déjà 12 000 en France. Quand j'étais petit, je ramassais toutes les bêtes qui traînaient. Je ne sais pas pourquoi, mais hein, tout ce qui te grouillait, tout ça, etc. Et ma grand-mère, « Mais tu vas te faire mort, tu vas te faire avivier, vous savez. » Et puis, quand j'étais plus âgé, j'ai repris une collection de coléoptères sur le coup de 15-16 ans, quoi, si vous voulez.
Vous étiez parisien à ce moment-là, Henri Englebert?
Oui, j'habitais Paris, oui. Alors j'ai commencé une collection de coléoptères, oui, mais moi j'allais les chercher dans la campagne, quoi, si vous voulez. C'était... Puis le bois de Vincennes, c'est pas loin. Hein. Mais il y en a dans Paris, hein. Les profs, tout ça, c'est des Parisiens. Et j'ai pensé que il n'y a pas longtemps, il y a quelques années seulement, essayer de voir ce qu'il y avait dans une ville.
En l'occurrence, Paris.
En l'occurrence, Paris. Ah ben moi, j'habite Paris. Donc... Mais ici, c'est une ville qui est agréable parce que rien que le Père Lachaise, hein, c'est une mine. Les insectes, si vous voulez, ça peut se piéger avec toutes sortes de choses. Mais en particulier, ils sont sensibles à la lumière. Alors, quand vous voulez attraper des insectes à la lumière, c'est un tube lumineux, vous savez, un tube normal, quoi, de ça. Vous le mettez. Les insectes... arrivent et viennent se taper sur le tube, et derrière il y a une plaque de verre et en dessous un entonnoir. Alors il tape, il tombe dedans, entonnoir récupéré. J'ai ramassé à peu près comme ça près de 600 espèces de coléoptères sur mon tube lumineux là. Enfin, avec ce système là tout ça, c'est j'ai sorti des boîtes de Parisiens. Il y en a des plus gros, hein. Mais à Paris, il n'y en a pas de trop, trop gros. Une fois qu'on les a attrapés, il faut les préparer. Il faut étaler les pattes, les antennes devant. Hein. Et puis alors, en dessous, on met les renseignements. Où on l'a trouvé, comment, dans quelles conditions. Enfin, il y a deux petites plaquettes, la date, l'heure. Enfin, tous les renseignements comme ça.
Parmi les papillons des bois parisiens, il y a quand même de très, très jolis noms. Le flambé, la mélité du plantain, l'azuré du thym, l'argus bleu, le cuivré fuligineux, le bombyx porte-brosse, le sphinx de l'euphorbe. C'est merveilleux, ça, pour
Les noms de tout ce qui est nature sont merveilleux, oui. Il y a toujours d'abord un nom et une épithète comme ça. Hein. C'est toujours...
Genre, espèce.
Voilà, il y a deux choses. C'est même si on ne sait pas trop quoi dire, on dit le rouge-gorge familier. Voilà. On dit le chardonneret élégant. Alors chez les araignées aussi, moi j'ai la zygiale des fenêtres là qui vient toujours dans mon petit coin de volet quand je referme le soir. D'ailleurs je suis étonné parce que ça fait des années qu'il y en a toujours, je me dis c'est pas possible que ça soit la même quand même.
Vous avez des bouquins entiers sur des familles.
Pour l'identification.
Oui, pour l'identification, mais c'est des bouquins comme ça. Hein. Bon, sur les hannetons, le genre hanneton et tout, vous avez un bouquin comme ça. Hein. Bon, vous regardez ça à la loupe, binoculaire, vous dites oui, elles sont comme ça. Et quand vous dites que les pattes doivent être comme ça, vous les voyez comme ça. Mais c'est pas facile, quoi. Quand vous savez, au Muséum, il y a une association, c'est peut-être eux qui vous ont donné la COREP, je sais pas si ça vous dit ça quelque chose, si, bon. Ben, d'accord, c'est l'association des coléoptéristes de la région parisienne, ça sonne bien. Et cette association, quand j'ai dit que j'allais refaire la faune de Paris, même les gens du muséum, hein, grosse rigolade.
Les entomologistes du muséum. Là,
oui, les professionnels. Grosse rigolade. Mais dites donc, quand vous en aurez trouvé 20 ou 30, hein, ben, vous aurez fini votre métier. Hein. Alors je crois que je suis à 631 ou quelque chose comme ça. Et eux, ils sidéraient. Hein, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que... Alors du coup, ils disent continuer parce que nous, on nous avait fait découvrir un monde. Hein.
Vous êtes très, très connu en tant qu'entomologiste spécialiste des coléoptères à Paris.
C'est vrai qu'au muséum, quand je rencontre un entomologiste ou un autre comme ça, il me dit Englebert. Ah, Englebert, Paris Intramuros. J'ai un surnom, quoi, si vous voulez.
Je suis à 72 ou 73 espèces vues au Jardin des Tuileries, c'est quand même pas mal. Il y en a, je crois que le total est de 83 ou 84 espèces, donc j'en ai encore 10 à voir.
Que j'ai sur le jardin ou...
Rien que sur le jardin, oui. Par exemple, il y a deux espèces qui me manquent et qui ça me peine beaucoup. C'est la cigogne blanche, puisqu'il y a des cigognes blanches qui se sont posées une fois dans le Jardin des Tuileries, un matin, si je me souviens bien. On entend le grappeau des jardins qui vient de crier, là, qui vient de faire son morse. Et puis l'autre oiseau, alors là, je ne suis certainement pas prêt de pouvoir l'ajouter sur ma liste. Ce sont les jardiniers qui m'ont tenu au courant et j'ai même vu une photo qui a été prise avec un smartphone. C'est un hibou moyen-duc, un migrateur qui était épuisé et qui s'est posé un beau matin sur un piquet. Là, il y a encore peu de temps, des piquets qui servaient de tuteur aux végétaux, qui est resté, paraît-il, toute la matinée. Mais je l'ai su que l'après-midi, et quand je suis arrivé, il était parti. Voilà. Et alors, dans ce cadre-là, c'est quand même, regardez comme c'est beau, là, avec ce ciel plombé, les façades ravalées qui claquent dans la lumière, là, les toits de zinc, tout ça, c'est absolument fou.
Michel Neff, vous êtes forestier de l'Office national des forêts, vous travaillez pour la ville de Paris. Nous sommes au bois de Vincennes. Il y a des rencontres animalières que vous auriez pu faire et qui vous auraient vraiment étonné ?
Des fois, ça peut être inquiétant. L'arrivée d'insectes ou d'oiseaux exotiques. Là, on a des perruches à collier, qui est un oiseau exotique, d'ornement, qui s'est acclimaté et qui arrive à passer l'hiver. Donc, c'est un très bel oiseau, mais ça a quand même l'inconvénient de chasser quand même les oiseaux autochtones, parce que c'est un oiseau... un cavicole qui aime bien les cavités dans les arbres, et une cavité dans une forêt est quelque chose qui est très recherché. C'est assez amusant d'ailleurs, il y a plusieurs cavités comme ça que j'observe, et d'une année sur l'autre, c'est pas le même locataire. Il y a la citelle torchepeau qui bouche le trou pour avoir le trou juste à sa dimension, qui utilise l'espace. L'année d'après, on peut avoir un écureuil qui, lui, utilise les cavités pour passer l'hiver et puis pour faire ses petits. Alors lui, c'est le nettoyeur, il nettoie tout à l'intérieur, parce que la citelle a tendance à remplir, à accumuler des débris à l'intérieur. L'écureuil passe, il fait le ménage. Et puis l'année d'après, on peut trouver le pic. Les pics, c'est eux, à l'origine, qui font la plupart des cavités, qui sont après squattées par d'autres... par d'autres oiseaux, comme aussi les tourneaux sansonnets. Et puis, on peut aussi avoir des abeilles ou des frelons. Il y a un turnover comme ça dans les cavités qui est assez amusant à suivre. On entend la chouette.
La hulotte.
La chouette hulotte, oui. C'est bientôt la pleine lune.
Ah oui. Bestioles parisiennes, avec Philippe Barré, jardinier au Muséum national d'histoire naturelle, Yann Crochet, photographe, Alain Demouzon, écrivain, Georges Fetterman, naturaliste, Henri Englebert, entomologiste, Jean-François Julien, chiroptérologue, Guillain Le Saffre, ornithologue, Michel Neff, forestier, Julien Van Dorp, de l'association Espace. Texte lu par Didier Douet. Vif remerciement au Musée du Louvre, au Muséum National d'Histoire Naturelle, à Johan Forêt et Dinelli Jacquet de Réseau Ferré de France, à l'association Espace, à Françoise Français de la Direction des Espaces Verts de la Ville de Paris. L'Atlas de la Nature à Paris est paru aux éditions du Passage, Oiseau Nicheur de Paris, un atlas urbain, chez Delachaux et Niestlé. Attaché de production Christine Gage et Laure-Hélène Planchet, prise de son Frédéric Quéroux, mixage Philippe Mercher. Bestiole parisienne, sur les docks, Jean-Philippe Navarre, Olivier Chaumel.
Vous pouvez retrouver ces bestioles parisiennes sur le site de l'heure du documentaire. Merci à Vincent Deck, Christine Robert, Christine Bernard, Arthur Béranger, Alison Sinard, Damien Le Délésir. La semaine prochaine, la grille estivale cède sa place à la grille de rentrée de France Culture avec la toute nouvelle série documentaire de Perrine Kervran et bien d'autres surprises. Il est temps de retrouver la chronique de Céline Duchesnay.